11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal, Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'offensive israélienne se poursuit au Liban. 300 cibles du Hezbollah touchées en 24 heures, dit l'armée. Les attaques du mouvement chiite sur Israël aussi. Anthony Blinken arrive dans la région avec un objectif: arracher un cessez-le-feu. Mais son 11e voyage dans la région en un an peut-il se solder cette fois-ci par un succès ? Faire contrepoids aux Occidentaux, montrer ses alliances et battre en brèche l'image d'un président isolé, tels sont les objectifs de Vladimir Poutine qui réunit à Kazan le sommet des BRICS. Ouverture aujourd'hui, une vingtaine de dirigeants sont attendus. On y parlera Ukraine, Proche-Orient et système financier alternatif. Et puis du foot aussi à la une avec la troisième journée de la Ligue des Champions en Europe. Au programme, la rencontre entre le PSG et le PSV Eindhoven ce soir. Peut-être un tournant pour l'équipe parisienne, on y revient à la fin de ce journal. Au Proche-Orient, le cycle des attaques et contre-attaques se poursuit sans trêve. Ce matin, le Hezbollah a tiré des roquettes sur des cibles militaires en Israël. Une base navale a notamment été visée, ainsi qu'un centre des renseignements militaires près de Tel Aviv. Les sirènes ont retenti aussi dans le nord du pays. Ces frappes interviennent au lendemain d'une nuit de bombardement intense au Liban. La banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite, a de nouveau été visée. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé environ 300 cibles du Hezbollah au Liban en 24 heures. Des frappes près de l'hôpital Hariri, le plus grand établissement public du pays, ont fait au moins 13 morts et 57 blessés dans le sud de Beyrouth. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie américaine arrive au Proche-Orient. C'est le 11e voyage d'Anthony Blinken dans la région depuis un an. Première étape Israël. Après la mort du chef du Hamas, il espère arracher un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages israéliens. Mais l'espoir est ténu, comme nous l'explique Sami Bourhelifa à Jérusalem.
11 voyages au Proche-Orient et 10 échecs pour le moment. Jusque-là, Anthony Blinken est toujours rentré bredouille à Washington. Impossible pour lui d'obtenir la moindre concession de l'État hébreu et du Hamas pour un accord de trêve à Gaza qui permettrait également la libération des otages israéliens. Le secrétaire d'État américain avait qualifié son dernier déplacement au Proche-Orient en août de dernière chance. Ce nouveau voyage est donc une ultime tentative pour arracher un cessez-le-feu. Mais depuis cet été, la situation a évolué dans le mauvais sens. Le conflit s'est intensifié. Étendu, il a gagné le Liban. Va-t-en guerre, le premier ministre israélien ne cherche pas la voie diplomatique. Benjamin Netanyahou dit plutôt vouloir changer la réalité stratégique du Moyen-Orient. Comprendre, opérer un rééquilibrage des forces en faveur d'Israël, en éradiquant les groupes armés palestiniens, le Hezbollah libanais et en neutralisant la menace iranienne. Pour le gouvernement israélien, la question des otages demeure secondaire. Seul atout d'Anthony Blinken pour obtenir un arrêt des combats, capitaliser sur la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, tué la semaine dernière par l'armée israélienne. Sami Bourhelifa, Jérusalem, RFI.
Après Israël, Anthony Blinken se rendra demain en Jordanie, avant plusieurs autres capitales arabes, pour discuter notamment de l'aide humanitaire toujours insuffisante pour les 2 millions d'habitants de l'enclave palestinienne. L'objectif est clair, faire contrepoids au G7. Vladimir Poutine réunit une vingtaine de dirigeants étrangers à partir d'aujourd'hui pour le sommet des BRICS à Kazan. C'est sur les rives de la Volga, dans le centre du pays. Le président russe y a convié les pays émergents pour consolider une alternative aux alliances occidentales. Il s'agit de montrer par la même occasion que la Russie n'est pas isolée sur la scène internationale depuis l'invasion de l'Ukraine. Et c'est Xi Jinping, le président chinois, qui reçoit les honneurs de la première rencontre bilatérale à l'ouverture du sommet. C'est la 16e édition de ce forum économique, créé par les pays émergents à la fin des années 2000, mais le premier depuis leur élargissement sans précédent l'an passé. Les BRICS sont-ils à un tournant ? Des éléments de réponse avec Julien Vercueil, économiste, vice-président de l'INALCO.
L'extension elle-même est incontestablement un succès politique, un succès d'image pour les BRICS initiaux. On avait déjà eu en 2011, après l'intégration de l'Afrique du Sud, un premier succès obtenu essentiellement par la Chine, qui était l'intégration symbolique de l'Afrique grâce à l'Afrique du Sud comme nouveau membre des BRICS. Et là maintenant, on a une deuxième étape qui est un élargissement au-delà des cinq initiaux, qui touche essentiellement le Proche-Orient, le Proche et Moyen-Orient, mais également l'Afrique. Et tout cela montre montre l'intérêt que les pays du Sud, des pays émergents, des pays qui cherchent à affirmer leur position non alignée dans les affaires du monde, pour ce forum et cette possibilité de discuter de manière hors les grands cadres généraux que les institutions internationales voulues par les pays occidentaux ont construites, des grandes affaires du monde.
Julien Vercueil, vice-président de l'INALCO, l'Institut des langues et civilisations orientales, il était interrogé par Igor Gauquelin. Hasard du calendrier, l'autobiographie d'Alexeï Navalny sort en librairie aujourd'hui un peu partout dans le monde. C'était le plus grand opposant de Vladimir Poutine. Il est mort en détention en février dans une colonie pénitentiaire au-delà du cercle arctique. Ses mémoires posthumes s'intitulent Patriote. Sa femme Yulia a relu et fini son récit après sa mort. Alexeï Navalny s'y disait persuadé que sa détention se finirait soit par la chute de Vladimir Poutine, soit par son décès. En Tunisie, Kais Saied a prêté serment hier devant les parlementaires, une cérémonie qui intervient 2 semaines après la présidentielle. Kais Saied l'a emporté avec plus de 90% des voix, avec un record d'abstention aussi. Seuls 2 candidats avaient été autorisés à se présenter contre lui. Depuis le printemps 2023, plus d'une vingtaine d'opposants ont été emprisonnés. Ses principaux opposants ont été écartés du scrutin. Les ONG dénoncent une dérive autoritaire permanente, alors que son second mandat commence. On écoute un extrait de la prise de parole de Kais Saied hier.
Il n'y a pas de place pour les traîtres, ni pour les collaborateurs, comme il n'y a pas de place non plus sur notre terre pour ceux qui se jettent dans les bras de la colonisation. Les défis qui attendent la Tunisie sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer ici. Mais il faut les relever pour écrire une histoire nouvelle de la Tunisie. Notre objectif est de donner vie à un pays dans lequel chaque Tunisien et chaque Tunisienne puisse vivre en toute liberté et dignité. Certains ont des comptes à rendre et il n'y aura aucun retour en arrière à ce sujet. Nous ne renoncerons à aucun centime dérobé au peuple tunisien. De cette tribune et en ce jour particulier, je veux dire qu'il n'y a pas de place dans notre cher pays pour quiconque n'œuvre pas à la réalisation des espoirs de notre peuple.
Au Cameroun, Paul Biya a regagné de l'aéroport le palais présidentiel de Yaoundé sous les caméras de la télévision d'État hier. Une émission spéciale a été consacrée à cette apparition. Le président camerounais, âgé de 91 ans, était resté absent de la scène publique pendant plusieurs semaines, laissant les rumeurs sur sa santé enfler. En France, le budget est désormais dans le chaudron de l'hémicycle. Depuis hier soir, les députés ont entamé l'examen de la partie recette du projet de loi. Un budget qui prévoit 60 milliards d'économies. Première passe d'armes, 3700 amendements déposés. Les débats doivent se poursuivre jusqu'à vendredi soir. Du foot, à présent, est la 3e journée de la Ligue des champions en Europe. Au programme notamment aujourd'hui la rencontre entre le PSG et le PSV Eindhoven. Une belle occasion pour le club parisien de retrouver la victoire. Cédric De Oliveira.
Le PSG n'a plus le statut d'un grand favori en Ligue des Champions, mais ça n'empêche pas ses supporters d'avoir des exigences. Christo est un habitué du Parc des Princes, alors il espère que son club saura éviter le piège face aux Néerlandais.
Et si on est prêt à le faire, parce qu'au final derrière il y a l'Atlético, il y a City, il y a le Bayern, surtout à Munich, ça va être un gros match test.
Le calendrier sera exigeant dans les prochaines semaines. Il faudra donc d'abord écarter le PSV, une lettre d'écart, mais de sérieuses garanties aussi dans le jeu, estime l'entraîneur parisien Luis Enrique.
C'est un adversaire sérieux qui a remporté le championnat des Pays-Bas l'an dernier avec des statistiques incroyables. Le PSV va nous poser des problèmes, c'est sûr.
Surtout si Paris reste aussi inconstant. Pour l'instant, 2 matchs de Ligue des Champions, 1 succès étriqué contre Gérone, puis une leçon infligée par Arsenal. Finalement, il y a peu de certitudes, mais ça n'inquiète pas le technicien espagnol.
Là où les gens voient du doute, moi je vois de la progression, je vois du potentiel, je vois de l'optimisme. Évidemment que la Ligue des Champions, c'est difficile, mais c'est un match à domicile devant notre public, donc il faut un résultat positif.
Avec une victoire et donc 6 points, le PSG se replacerait dans cet immense championnat unique. Il lui restera encore 5 matchs à disputer pour s'éviter une mauvaise surprise.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonjour Laurence Garcia.
Bonjour Karine Berichat. Merci à vous. À tout à suite.